Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Il est important de remonter aux origines de l'humanité pour mieux comprendre notre histoire, ainsi que celle du monde d'aujourd'hui.
Et le récit de nos origines se trouve dans le livre biblique de la Genèse. Voilà pourquoi nous consacrons du temps pour étudier les chapitres 2 et 3 de ce livre.
Écoutons pour continuer la lecture de Genèse chapitre 3, versets 14 à 19. Ensuite, Yann poursuivra ses discussions en compagnie de notre invité Étienne.
Alors l'Éternel Dieu dit au serpent :
Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu lui écraseras le talon.
Dieu dit à la femme,
« Je rendrai tes grossesses très pénibles, et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. »
Il dit à Adam,
« Puisque tu as écouté ta femme, et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. » C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière.
Lors des deux discussions précédentes, nous avons appris, nous appuyons ce Genèse chapitre 3, que le serpent avait incité l'homme et la femme à manger d'un certain fruit, bien que Dieu leur eût interdit de le faire. Après leur désobéissance, ce couple eut vraiment honte. Ils essayèrent de couvrir leur corps et de se cacher loin de la face de Dieu, au moment où celui-ci entrait dans le jardin pour leur parler. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la suite de ce récit, et Étienne est parmi nous pour nous en dire davantage. Bonjour Étienne.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Le texte que nous venons de lire est parmi les plus tragiques de la Bible. Dieu annonce que la désobéissance de ce premier couple, formé par Adam et Ève, aura des conséquences gravissimes sur la race humaine tout entière.
Quelles sont ces conséquences? Pouvez-vous nous en donner la liste?
Oui, tout d'abord, Dieu maudit le serpent, c'est-à-dire le diable. Toutefois, nous apprenons qu'une hostilité permanente entre le diable et les descendants de la femme se manifestera. Autrement dit, Dieu livre les hommes à une situation où le diable disposera d'une certaine liberté pour les soumettre à ses mensonges et à sa domination. Cette hostilité demeure de nos jours et se manifeste différemment selon les cultures. Ensuite, Dieu s'adresse à la femme pour lui annoncer qu'elle souffrira chaque fois qu'elle mettra au monde un enfant. Les douleurs des accouchements sont le résultat de la désobéissance d'Ève.
Puis Dieu dit à la femme, « Ton désir se portera vers ton mari. » Mais lui te dominera. Quel est le sens de ces paroles?
Il est vrai qu'elles sont un peu énigmatiques. Je pense qu'elles signifient que les relations humaines les plus intimes seront dorénavant troublées, faussées. Elles seront assujetties aux tensions et aux conflits. Les hommes et les femmes auront du mal à travailler et à vivre ensemble dans la paix, l'harmonie et l'amour. De toute évidence, le mariage ne sera plus composé de deux personnes égales cherchant à se compléter, mais plutôt de deux rivaux cherchant à se dominer l'un l'autre, dans l'espoir de servir ses propres intérêts et non ceux de l'autre. Ces mêmes tendances affectent non seulement les mariages, mais aussi toutes les relations humaines, des plus intimes aux plus larges. Bref, suite à la chute d'Adam et d'Ève, les hommes ont du mal à s'entendre.
Et Dieu s'adresse maintenant à l'homme, Adam.
Oui, jusqu'alors Dieu a annoncé qu'un conflit s'installerait entre le diable et les hommes, que les relations humaines seraient marquées par des désaccords. Toutefois, à présent, nous apprenons qu'un conflit va s'ériger entre les hommes et la nature. Auparavant, le jardin était facile à cultiver et à entretenir. Le travail y était agréable, épanouissant. Mais dorénavant, ce ne sera plus le cas. L'homme devra lutter contre la nature, travailler dur, pour extraire de la terre ce dont il a besoin. Pour survivre, Il devra désormais s'attaquer aux mauvaises herbes, aux insectes qui dévorent tout, aux maladies, à la sécheresse et aux intempéries.
Et vers la fin de ce texte, Dieu annonce le pire des conséquences en déclarant « Tu retourneras à la poussière ».
Oui, ces paroles annoncent la mort. Dieu avait créé l'homme avec le potentiel de vivre à jamais, mais à cause de sa désobéissance, Dieu l'a privé de ce privilège. Toutefois, ne l'oublions pas, Dieu avait bien averti Adam et Ève de ces conséquences funestes, en leur annonçant que si jamais ils mangeaient du fruit interdit, la mort entrerait dans le monde.
Merci Étienne, nous pouvons constater à quel point le malheur est désormais entré dans le monde entier. Il s'est insinué dans toutes les vies. Cependant, pourquoi devons-nous tous subir ces conséquences alors que la désobéissance incombe seulement à Adam et Ève?
Oui, voilà une question importante à laquelle je voudrais répondre par une autre question. Aurions-nous mieux fait qu'Adam et Ève? Aujourd'hui, agissons-nous mieux qu'eux? Personne ne peut affirmer être innocent de toute faute, ni de n'avoir jamais commis de péché. Et c'est la raison pour laquelle les conséquences des fautes annoncées par Dieu subsistent de nos jours.
C'est terrible.
En effet, ce texte trouvé au chapitre 3 du livre de la Genèse nous aide à comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui. Il nous aide à comprendre comment la race humaine a sombré si bas. Cependant, je voudrais conclure notre discussion par une note d'espoir apportée par le texte biblique lui-même.
Quelle est-elle?
En s'adressant au serpent, Dieu lui déclare « Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. » Une très belle nouvelle se tisse dans cette annonce. Dieu fait une promesse à l'humanité. Un descendant, issu de la femme, écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire du diable. Mais cette victoire sera au prix de beaucoup de souffrances.
Expliquez-nous en quoi ces paroles représentent une bonne nouvelle.
Eh bien, le jour viendra où le diable sera vaincu et où les hommes seront délivrés de sa cruauté, de ses mensonges et de sa domination. Autrement dit, Dieu promet que le jour viendra où les conséquences de la faute de l'homme et de la femme seront annulées. Le jour viendra où non seulement le diable sera vaincu, mais où Dieu restaurera l'harmonie et la paix entre lui et les hommes, entre tous et la nature. De même, Dieu redonnera aux hommes le privilège de vivre éternellement. D'ailleurs, la Bible entière nous parle de la façon dont Dieu va réaliser cette promesse.
Et la Bible nous révèle-t-elle l'identité de celui qui écrasera la tête du diable?
Oui, il s'agit de Jésus-Christ. Par sa mort sur la croix, il a vaincu le diable. Le texte de Genèse 3 nous laisse entendre que cette victoire serait acquise au prix de la souffrance. Le sacrifice de Jésus sur la croix était nécessaire pour triompher sur tout esprit maléfique, pour anéantir le mal, le péché et la mort. Désormais, tout individu, en plaçant sa foi en Jésus, peut être délivré de l'emprise du diable et se réconcilier avec Dieu. De plus, il possède une espérance formidable, car le jour viendra où Jésus rétablira sa justice et créera toutes choses nouvelles. En ce jour, nous vivrons éternellement, en harmonie parfaite avec Dieu, avec son peuple racheté et sa nouvelle création.
Merci Étienne. Merci de conclure cette discussion sur cette note d'espoir. La prochaine fois, nous aborderons la suite et la fin de Genèse chapitre 3.
C'est exact, Yann. Je vous dis à bientôt et au revoir à tous.
Merci. Le moment est venu de commencer notre courte méditation biblique. Et aujourd'hui, je vais lire un extrait de la première lettre de Paul adressée à l'église de Corinthe, chapitre 15, versets 54 à 56.
Après la désobéissance d'Adam et d'Ève, Dieu prononça une série de malédictions qui allaient s'abattre sur l'humanité entière. La mort demeure probablement la plus grave, la plus redoutée de toutes. Hélène va nous lire des versets qui apportent toutefois une espérance face à cette dure réalité. Puis notre invité Bernard nous en racontera davantage.
Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
Ce texte annonce la victoire sur la mort. Mais nous pouvons nous demander quelle est cette victoire et à quel moment se réalisera-t-elle? Car autour de nous, nous le constatons, tôt ou tard, les gens meurent. Et nous-mêmes, nous le savons, nous mourrons un jour. Jésus et les apôtres qu'il envoya déclarent que c'est à la résurrection que nous triompherons de la mort. La mort est le sort de tout homme, mais elle ne représente pas la fin. Car tous nous ressusciterons, et celui qui croit en Dieu vivra pour l'éternité dans la présence du Seigneur. À la résurrection, nous aurons tous un corps différent de celui qui nous enveloppe actuellement, et ce nouveau corps sera éternel. À présent, nos corps sont corruptibles, c'est-à-dire qu'ils tombent facilement sous l'emprise du mal, se tournent vers le péché et retournent à la poussière. Ressuscités, nos corps seront incorruptibles. Le mal ne pourra plus nous pervertir. Nous ne serons plus capables de commettre de péché et nous vivrons éternellement. À présent, nos corps sont mortels, c'est-à-dire qu'ils vieillissent et sont susceptibles d'attraper toutes sortes de maladies. Demeurer en bonne santé n'est jamais garanti. À la résurrection, nos corps deviendront immortels. Plus rien alors ne pourra nous ôter la vie. Nous vivrons éternellement. Comment être sûr que cette résurrection nous attend? Nous en sommes convaincus parce que Jésus a déjà triomphé de la mort. Jésus est mort sur la croix, mais 3 jours après, il est ressuscité. Suffisamment de personnes l'ont vu, suffisamment de gens ont été témoins de cet événement. Avec confiance, nous pouvons déclarer que, oui, Jésus est ressuscité. De plus, Jésus a fait la promesse suivante mentionnée dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » C'est pour cela que Paul s'exclame « Loué soit Dieu ! » qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a triomphé de la mort en mettant notre foi en lui, notre propre résurrection à la vie éternelle est garantie.
Merci Bernard pour ces paroles empreintes d'espérance.
C'est ainsi que nous terminons notre émission, mais nous espérons vous retrouver bientôt pour la suite et la fin de cette série sur le chapitre 3 de Genèse. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.